Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour, bonjour mesdames, messieurs. Bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour envisager, pour savoir ce qu'il va advenir désormais des officiants ressuscités. Dès la première strophe du Yasna 55, comme nous l'avons vu la dernière fois. Après le Yasna 55, nous entrons dans cette zone un peu surprenante pour le Yasna, qui est consacrée en principe au dieu Sraoucha. Je ne vais pas faire une longue explication sur le nom de cette divinité dès le départ, parce que c'est la lecture du texte immédiatement qui nous permettra de définir avec le plus de précision le sens de ce nom. Sraoucha, comme presque toutes les divinités mazdéennes, et je vous ai habitué à cette notion, hein, toutes les divinités mazdéennes, à quelques rares exceptions près, sauf les secteurs de la nature, bien entendu, sont des divinités métonymiques, sont des allégories métonymiques de la personne pensante. Or, Sraoucha, son nom est formé sur le verbe srou, qui signifie entendre, et il est pourvu d'un petit élément S, che, n'est-ce pas, que vous voyez à l'ouverture de la dernière syllabe de son nom, c'est le premier mot du texte. Or, cet élément S, en principe, ne forme pas un suffixe usuel. C'est quelque chose de spécifique qui appartient à Sraoucha. Mais en fait, ça colore le sens du mot d'une nuance de subjonctif aoriste, de nuance verbale. Or, le subjonctif aoriste exprime, d'une manière générale, dans la vieille langue, en Avesta récent, il n'y en a plus, mais dans le védique ou l'avestique ancien, où cette formation est attestée, ça colore la forme verbale d'une nuance d'effort. C'est faire un effort pour accomplir l'action. Donc, dans ce cas-ci, l'effort pour entendre. C'est le sens de base. À partir de là, on peut bien sûr spéculer. On peut spéculer. Jusqu'où ce sens de base va-t-il se développer ? Généralement, le développement le plus humble qui ait été postulé, c'est celui qui consiste à voir dans Sraoucha la vertu humaine d'écouter la parole divine, la volonté chez les hommes d'écouter la parole divine. C'est l'opinion que vous trouverez la plus répandue. On peut aller plus loin, on l'a fait. Il y a des traductions qui vont jusqu'à obéissance, l'obéissance à la parole divine. On n'est pas très loin. Et je pense que le développement le plus lointain a été proposé par Émile Benveniste en 1945 dans la revue d'Histoire des religions, où il porte le sens du mot jusqu'à discipline. Discipline avec ce que discipline comporte de possibilité de châtiment. De possibilité de châtiment. Nous allons vérifier tout ça sur le texte lui-même, hein, on va voir. Donc, nous entrons dans le secteur dédié au dieu Sraoucha, et il y a en fait dans l'Avesta trois textes consacrés au dieu Sraoucha. C'est beaucoup, c'est étonnant. Donc c'est une divinité importante, semble-t-il. Le Yasna 56, bon, c'est lui qui va nous retenir, c'est lui qui figure, qui est projeté ici. Le Yasna 56 est défini en moyen perse comme le Sraoucha Yasht Ike. Donc, l'hymne sacrificiel au dieu Sraoucha, petit, le petit Sraoucha Yasht, le petit hymne sacrificiel au dieu Sraoucha. Le Yasna 57 qui suit, qui est beaucoup plus long, est le Sraoucha Yasht Imas, le grand hymne sacrificiel au dieu Sraoucha. Effectivement, il est plus long. Et pour nos conventions, je vous signale que le mot Yasht, que l'on peut considérer du point de vue technique comme un hymne sacrificiel, un sacrifice, seul le Yasna 57 répond vraiment à ce type rhétorique. Et puis, dans l'autre liturgie, Il y a un yasht, le 11e, qui est lui aussi consacré au dieu Srausha et qui est défini comme le Srausha yasht ha-dokht. Donc, vous connaissez ces termes, hein. C'est l'hymne sacrificiel à Srausha complémentaire. Donc, la distinction est faite, est faite par les Dyasevastes moyens perses entre les trois textes que nous possédons. Alors, voyons le premier. Il est négligé, le premier. On l'a très peu travaillé. Il est remarquable que dans le livre paru en 1985 sur le dieu Srausha, le livre de Krayenbrück, le Yasna 56 soit le tout dernier document envisagé, comme s'il était négligeable. Il est vrai qu'à cette époque, ce texte n'avait pas été, n'avait pas reçu une grande considération. Mais tel qu'il figure là, nous allons nous pencher d'abord sur sa structure générale. Vous voyez que chaque strophe, laissez tomber la quatrième, elle fait partie de la troisième, en fait. Donc, les trois premières strophes commencent de la même manière. Srausho, Ida, Astur. Ida, ici, maintenant, voici le moment. C'est ce qui va se passer maintenant dans l'Yasna 56. Astu, impératif troisième personne du verbe être. Qu'il y ait maintenant, qu'il y ait Srausha. Allez, provisoirement, qu'il y ait maintenant attention, qu'il y ait écoute, qu'il y ait effort pour entendre. C'est une sorte donc d'exhortation. Bon. Ensuite, chaque strophe s'articule autour du datif du nom du sacrifice, Yasnaï. Hein, vous le trouvez au milieu de la deuxième ligne de chaque strophe, Yasnaï. Donc, qu'il y ait attention, qu'il y ait écoute au sacrifice. Au sacrifice. Et portant sur ce Yasnaï un ensemble de termes au génitif, qui définissent bien sûr le sacrifice de qui il s'agit. Ahura Mazda, vous reconnaissez le nom d'Ahura Mazda, le sacrifice pour Ahura Mazda, puis une série d'épithètes qui se rapportent au grand dieu, Apam Vankuinam, génitif pluriel, pour les bonnes eaux, le sacrifice des bonnes eaux, le sacrifice pour les bonnes eaux, et puis un certain nombre de termes qui peut-être associent aux eaux d'autres divinités. À nouveau, sacrifice aux bonnes eaux, Apam Vankuinam, dans la strophe 3. Bon, ça, c'est le deuxième élément de la structure, ce qui porte sur Yasnaï, le sacrifice. Et puis, le syntagme est clos de cette manière, et survient une remarque qui, dans chaque strophe, est la même. Yat paurvim tat ustamum chit. Quelque chose de très surprenant. Car il n'y a rien de semblable dans l'Avesta, et c'est une expression adverbiale qui signifie ce qui est au début, yat paovim, ce qui est au début, tat ustamem, cela est à la fin. Ce qui survient au début survient à la fin. Et puisqu'il en est ainsi, on répète ce qui a été dit jusqu'alors, n'est-ce pas ? Introduit par avatat, avatat, ça, c'est une particule qui signifie dès lors par conséquent, et on répète. Mais l'introduction d'avatat, comme vous le voyez, c'est un détail, mais ne vous laissez pas surprendre. Cela modifie bien entendu la tonalité de la phrase et cela conditionne une inversion entre les termes ida et Srausha. Ça n'a pas d'importance pour le sens, c'est une question de phrasé en quelque sorte, hein. À cause de l'introduction de Avatat. Et l'on répète le syntagme qui a été pris jusque-là. Il y a encore autre chose. Comme vous voyez, chaque divinité, dans chaque strophe, est, semble-t-il, mais nous y viendrons, hein, définie par une proposition relative. Tous ces mots qui commencent par Y, hein, Yeu, donc pour Ahura Mazda, Yeu, non, Ishto. Yunan Ishto. Ça, on va le laisser de côté. Qui quelque chose. Ahura Mazda, qui quelque chose. Ensuite, les eaux sont Yunan Ishto, etc. Les eaux aussi. Les eaux qui sont quelque chose de ceci. Et puis, on retrouve la même phrase dans la troisième strophe avec Yane, plus longue, Yane Aharai, n'est pas faite sur le même modèle. Urnawatai, Cha, Ashankach. Bien. Mine de rien, ce texte qui est bref, qui est répétitif aussi, c'est une mine d'informations pour nous, parce qu'elle nous permet une réflexion à trois niveaux. Alors, nous allons commencer par, chronologiquement, par l'information chronologique. Nous allons faire un peu d'archéologie de la terminologie sacrificielle. Le syntagme introductif de base sera au chaud Ida Astu, qu'à présent il y ait effort pour entendre, qu'il y ait attention portée à. Eh bien, on trouve quelque chose qui de très ressemblant, on va définir la semblance, dans les yajus brahmaniques de la Taittiriya Sanhita. Les yajus, dans le vocabulaire du rituel brahmanique, sont des formules sacrificielles extrêmement brèves, qui, dans le cas le plus dépouillé, et c'est le cas ici, consistent en une série de cris rituels. Celui que vous avez ici, qui se trouve dans Taittiriya Sanhita, Ahu Shravaya Astu, Shraushat, Yaja, Ye Yaja Mahe, Vaushat. Vous avez trouvé immédiatement, vous allez voir, vous trouvez immédiatement notre Astu Shraushat qui évoque naturellement Srausha, qui évoque notre Srausho Ida Astu. Alors, nous allons décortiquer cela, parce que nous pouvons le mettre en situation. C'est ce qui est intéressant avec un rituel brahmanique. Les commentateurs nous disent ce que cela signifie. Ahu Shravaya, j'ai donné la traduction avestique et de moi, en dessous. J'ai fait une traduction avestique pour vous montrer combien les choses sont proches. Il n'est pas nécessaire, je vous fais remarquer, de connaître les deux langues pour voir combien formellement elles sont semblables. Ce n'est pas une traduction, d'ailleurs. Elles sont si semblables que ça n'est pas une traduction. C'est comme si, dans le domaine français, nous transformions du picard en lorrain. C'est rien d'autre. Donc, ça continue, évidemment, à... formellement, nous voyons toutes les ressemblances. Vous voyez immédiatement la concordance. Ah, Ushravaya. Exhorte-le. Fais-toi entendre. Fais-toi entendre. C'est l'exhortation qui est faite par le prêtre Advaryu, du sacrifice, à Lag Ni. C'est Lag Nidra. Donc, ce Lag Nidra, ou on essaie le mot Agni, le feu rituel, c'est le prêtre qui s'occupe d'allumer le feu. Alors, l'Advaryu s'adresse par ce « fais-le entendre à Lag Nidra ». Ça signifie qu'il faut donner un ordre au prêtre Hautar. Fais entendre le Hautar. Astu, Saushat, ces deux verbes, Astu, donc notre impératif, comme dans le texte avestique, ici, Lag Nidra, effectivement, se fait entendre du Hautar. Il s'adresse au Hautar et lui dit « Astu, qu'il soit là, que le Hautar soit là, que le Hautar soit là. » Shraushat, là, nous avons vraiment la forme verbale du subjonctif aoriste d'exhortation. Qu'il l'entende, que le Hautar entende. Yaja. Cette fois, c'est l'Advaryu qui parle au Hautar, puisque le Hautar a été alerté. L'Advaryu s'adresse à lui et lui dit « Yaja, Yaja, sacrifie, sacrifie. Ye Yaja Mahe. » C'est le Yazamaïdé avestique que nous avons vu si souvent. Cette fois, c'est le Hautar qui prend la parole et qui exprime l'action qu'il accomplit. Nous voilà qui sacrifions. Ye yajamahe, nous voilà que nous sacrifions. Vaushat, déformation expressive de vakshat, autre subjonctif aoriste d'exhortation. C'est une exhortation du Zaoutar au feu rituel, à Akni. Qu'il véhicule, car c'est la fonction d'Akni, c'est véhiculer les offrandes chez les dieux. Donc voilà un échange d'exhortations entre les divers officiants du sacrifice. Le Hotar, l'Advaryu et l'Aknidra. Est-ce que nous avons parmi les officiants avestiques, qu'est-ce qu'on pourrait répartir les tâches de cette façon-là? Il y a un petit problème, c'est l'Advaryu. Ne voyons pas. L'Advaryu, en principe, ça signifie le prêtre du chemin. C'est une fonction sacrificielle importante dans le rituel brahmanique. L'Advaryu est censé être le prêtre qui ouvre le chemin rituel. Il n'y a rien qui évoque cette fonction parmi les noms des officiants vestiques. Ah, l'Aknidra, oui, nous avons l'Atre Waksha, celui qui active le feu. Celui qui active le feu. Et le Hotar, naturellement, vous le savez, nous en parlons souvent, c'est le Zaotar, donc le directeur du sacrifice, le directeur du collège sacrificiel en avestique, comme dans le rituel brahmanique. Bien, alors voilà une phrase qui est plus complète, hein, mais vous voyez, ceci dit, elle n'est pas inutile. Il n'y a pas que Astu Srauchat, Srauchot Astu, qui concordent, hein. Nous pouvons mener le parallèle un peu plus loin. Il y a bien sûr la présence tout à fait explicite du sacrifice. Yasnai, attention au sacrifice, ici, immédiatement après Astu Srauchat, Yaja, hein, sacrifie. Donc, échange d'exhortation entre les membres du collège des officiants qui constitue un début du sacrifice. Hein, le sacrifice va démarrer. Il faut que le Hotar soit présent, et il faut lui donner l'ordre de commencer. Le Hotar commence, et il donne lui-même ses ordres au feu rituel. C'est ce que cela signifie. Alors, il est intéressant de noter, nous sommes dans la littérature brahmanique, elle est réputée plus récente que la littérature du Rig Veda, que les hymnes du Rig Veda, mais nous retrouvons ce syntagme, Astu Srauchat, qu'il soit là, qu'il l'entende, dans l'hymne du Rig Veda 1.139, et tout au début de la première strophe. C'est le début de l'hymne. Astu Srauchat, qu'il soit, qu'il écoute. C'est un hymne au Vishvedeva, donc on va faire un hymne pour l'ensemble du corps des dieux, qui symboliquement, conventionnellement, le texte le dit d'ailleurs quelque part, cet hymne-là le dit, qui sont 3 × 11. 3 × 11. Donc, 33. Je n'ose pas vous dire combien il y a de strophes dans le Srosh Yashtin, Yasna 57. Il y en a 33. Bon, ça n'a sans doute aucun rapport, c'est sans doute un hasard, mais nous allons rencontrer aujourd'hui beaucoup de hasards. Astu Srauchat, qu'il soit là, qu'il l'entende. Et puis, Puro Aknim Diya Dada'a. Bon, ici, je vous donne une traduction générale. Je ne vais pas éplucher, naturellement, la grammaire du passage. Je place Agni, je place le feu rituel au-devant, en premier lieu, devant. Nous voici avec notre pas Oiriam, hein, ce qui est au début. Agni est au début. Hein. Il est notre Purohita, en d'autres termes. C'est le mot officiel qui définit cette place primordiale d'Akni. Il est naturellement le chapelain, le chapelain des divinités pour chaque sacrifice, mais il est aussi le premier sacrificateur. Il est le premier sacrificateur. Le premier Hotar qui est officié, selon la tradition, nous avons vu ça avec les Fravashi l'an dernier, n'est-ce pas ? Il occupe la première place dans ce que le Veda appelle le Pravara, c'est-à-dire la lignée continue des officiants. Hein, depuis le sacrifice primordial jusqu'à celui d'aujourd'hui, et il est censé se prolonger jusqu'à la fin des temps. Première phrase du Pravara, je place Akni en tête. Je place Akni en tête. N'est pas non plus indifférent de remarquer, ça n'a plus rien à voir avec Srauchat, mais que ce mot pour Ōita est représenté en avestique avec une petite difficulté phonétique que nous méprisons, dans le mot Paradatta. Or, le premier personnage des catalogues de sacrifiants des Yashtas de l'Avesta est un certain Haushyanka. C'est le premier homme qui est donc sacrifié, semble-t-il. Haushyanka s'appelle-t-il. Eh bien, voilà son titre, son épithète officiel. Il est Paradatta. Vous voyez donc d'où est l'origine de la vieille notion. Ce Paradatta pour Ōita désigne la tête de liste, hein, le premier sacrifiant qui ait accompli son œuvre dans une lignée temporelle. Je place Agni en tête. Et puis, autre chose. Nous, à présent, ça c'est un peu la fonction d'Ida, mais c'est la variante temporelle de ce qu'il y a de local dans Ida, n'est-ce pas ? Maintenant que j'ai fait cela, maintenant que quelqu'un, on ne dit pas qui, doit être là, que quelqu'un doit écouter, que j'ai mis Agni en tête, eh bien, nous choisissons Verni Mahe. Nous choisissons les dieux Indra et Vayu comme cible sacrificielle. Ce sont les premiers dieux de la liste des Vijvedeva, de tous les dieux qui sont mentionnés. Alors, ici aussi, nous avons quelque chose d'intéressant qui échappe à notre passage, mais enfin, souvenez-vous des préliminaires. Nous sommes dans des préliminaires sacrificiels. Il faut que les officiants s'exhortent mutuellement à commencer le sacrifice, qu'ils donnent leurs ordres éventuellement au feu rituel. Et puis, quel acte pose-t-il ? C'est du choix sacrificiel, Verni Mahe. À la première personne du pluriel, cela correspond évidemment à notre Fravarané. Hein ? Je choisis, du Yasna 12. Hein ? Il y a une concordance conceptuelle, elle n'est pas inscrite dans la lettre exactement des hymnes, mais puisque nous sommes au début du sacrifice, la déclaration de choix sacrificiel est primordiale. Donc nous faisons le choix sacrificiel d'Indra et de Vayu. Lorsque l'on se rapporte, c'est pas si l'on veut, lorsque l'on part à la pêche des parallèles védico-avestiques, Srosho Astu, eh bien, on aura tendance à ne consulter que cette première strophe, où se trouve évidemment le matériel du parallèle. Seulement, ça nous laisse sur notre faim, car dans l'hymne védique tel qu'il est rédigé, on ne voit pas très bien à qui s'adressent ces exhortations Astu, Sraushat. C'est clair dans la Taittiriya Samhita, ça ne l'est pas dans le Rig Veda. Dans le Rig Veda, nous ne voyons cela qu'à la fin de l'hymne. C'est encerclant. Hein. Tout ce matériel, c'est la première strophe et la dernière. Or, la dernière strophe s'ouvre, elle aussi, par une exhortation. Hota yakshat. Ah, maintenant, tout devient clair. Nous sommes dans le même contexte que dans la Taittiriya Samhita. Il s'agit du hotar, que le hotar, yakshat, subjonctif aoriste du verbe yaj, sacrifier, que le hotar sacrifie, que le hotar sacrifie. On a démembré, n'est-ce pas, l'injonction de la Taittiriya Samhita, répartissant ces éléments, la première strophe et la dernière. Puis, l'exhortation continue, mais elle prend une autre forme. Vanino vanta variam. Que les vainqueurs, dérivés du verbe van, vaincre, que les vainqueurs, ceux qui gagnent quelque chose en général, il ne faut pas nécessairement voir ici de l'activité guerrière, que ceux qui gagnent, gagnent. La forme verbale exhortative est ici. Elle est irrégulière un peu aussi, parce que tout cela, les exhortations sont très souvent déformés pour des raisons d'expressivité. Vanta, que ceux qui gagnent, gagnent, et qu'ils gagnent, variam. Variam. Je ne vous ferai pas de traduction. La traduction de Renou dit faveur. Gagne des faveurs. Mais nous devons noter, n'est-ce pas, c'est des traductions, que la traduction de Renoux a été faite 10 ans avant l'article de Schlerat sur la racine var, choisir, dont nous avons parlé la fois dernière. Or, variam est un dérivé de la racine var que nous avons dans vernimahe. Il y a un écho au vernimahe et notre fravarané. Donc, il est question de gagner quelque chose que l'on a choisi, quelque chose qui a été choisi. Et alors, on passe, comme le ye yajamahe, à la réalité présente, Burhaspatir Yajati. Burhaspati, c'est une divinité sacerdotale, c'est le dieu prêtre. Il va incarner le retard du sacrifice en cours. Burhaspati sacrifie. Il sacrifie en compagnie des taureaux. Or, le taureau est l'image, est une image très fréquente pour le prêtre en activité sacrificielle. Il est métaphoriquement rapporté à un taureau. Donc, c'est d'ailleurs un trait que nous trouvons aussi en vieille avestique. En avestique récente, nous ne l'avons plus. Les choses sont sont un peu moins métaphoriques de l'avesta récent. Mais ce que l'on appelle dans les gathas les ukshano asnam, les taureaux des jours, ce sont les prêtres officiants. Comme ici, c'est le même mot, à peu près, uksha, ukshan dans le Rig Veda. Donc, que Burhaspati, avec son collège sacerdotal, Burhaspati sacrifie, et ses taureaux, ses prêtres officiants, sont pour Uvaribir. Ah oui, un nouveau dérivé de la racine du choix. Les taureaux aux multiples choix. Aux multiples choix. Pour où veut dire beaucoup. Les taureaux aux multiples choix. Peut-être y a-t-il une allusion dans la multiplicité des dieux, puisqu'il s'agit d'un hymne, comme je vous disais, au Vishvedeva, étant donné qu'il a fallu répéter durant les strophes intercalaires, le choix sacrificiel au bénéfice d'une série de divinités. Ils ont donc accompli un nombre de choix multiples. Et puis quelque chose que je me réserve de commenter ensuite, mais dont je vous donne le sens. Jagurpma, nous avons entendu, à présent nous avons entendu, le shloka, c'est le nom d'un type de vers, n'est-ce pas, mais nous dirons la sonorité. La musique qui porte au loin, qui se fait entendre au loin, la musique de la pierre, génitif singulier de Adri, la pierre. Qu'est-ce que la musique de la pierre? Dans le cadre du rituel brahmanique, c'est évidemment le bruit que font les pressoirs à soma. Lorsque l'on pressure le soma avec des pierres, des pressoirs de pierre, cela, c'est sonore, C'est une des sonorités par excellence du sacrifice, et c'est cela que l'on a entendu. Bon, alors cela, je le garde quand même en réserve. Ce que nous avons gagné à cette archéologie rituelle, dont je définissais ce passage, entre un vieux texte rituel du Veda et notre texte de l'Avesta récent, qu'avons-nous gagné? Eh bien, nous avons gagné une perspective, c'est déjà cela. Nous voyons qu'une interjection du type Astus Raushat, ce Raucho Astu, ce n'est pas quelque chose que l'on adresse spécialement aux divinités. On ne demande pas aux divinités d'écouter le sacrifice, d'être attentif. On ne demande pas non plus aux assistants de faire bien attention, de faire bien attention au rite. C'est d'ailleurs une image qui rôde dans les manuels et dans beaucoup même d'articles spécialisés, mais nous n'avons absolument aucune certitude qu'il y avait une assistance à un rite avestique, à Ayasna. Les prêtres prouvaient, je pense que c'était le cas, les prêtres peut-être fonctionnaient à huis clos. L'important n'est pas que cela rassemble une communauté, ça c'est une image juive et chrétienne, n'est-ce pas, ou musulmane aussi, n'est-ce pas, mais un office religieux important n'a pas pour but de rassembler une communauté. Elle a pour but de faire descendre sur cette communauté une sorte de bienfait magique. Et pour cela, les prêtres peuvent fonctionner tout seuls. peut fonctionner. L'important est que quelque part, quelqu'un s'en occupe. Et les prêtres sont là pour ça. C'est une, d'ailleurs, j'ai pris quelques renseignements à ce sujet auprès de M. Caglieri, qui est venu faire des leçons il y a deux ans, je pense, ou auprès de Franz Grenet. Et effectivement, tout ce que l'on peut considérer comme temple mazdéen, mais c'est une réalité tardive, puisque il n'y a pas de temple avant le règne d'Artaxerxès II, mais tous les temples sont trop petits pour qu'il y ait eu une assistance considérable. Donc, il y a place à peine dans un temple pour le collège sacerdotal, ce qui montre évidemment le fonctionnement à huis clos. Bien, alors nous avons gagné cette perspective que ce sont les prêtres qui s'exhortent l'un l'autre à écouter et à être présents. C'est une exhortation que se lancent les prêtres. Et je vais vous rappeler certaines choses que nous avons vues. C'est que nous avons bien sûr le texte, le Visperet 3, qui est inséré à l'intérieur du Homestorm et qui procède à l'investiture des prêtres avant le premier acte décisif que le Zaoutar Avestik va poser et qui est de boire le Haouma. Il faut qu'il soit investi avant. Eh bien, on l'investit juste avant. Juste avant, il est investi. Comment cela se passe-t-il ? D'une façon qui est beaucoup plus explicite et qui nous paraît beaucoup plus plate. Simplement, quelqu'un dit « astaya ». Et « astaya », c'est un verbe, ça signifie « j'installe ».« Astaya », »,« j'installe le ». Suit le nom du prêtre exerçant la fonction sacrificielle. Par exemple, « j'installe l'atravach ». Et puis, simplement, survient une première personne aussi, simple, visai. C'est la réponse. C'est la réponse de celui qui a été investi. J'accepte. Alors, bien, il y a huit membres dans le collège sacerdotal. Ce simple échange de mots va se produire six fois. La septième fois, c'est un moment qui paraît important. La septième fois, ça paraît important parce que on accorde à ce prêtre que l'on investit une importance particulière, tout simplement en soulignant ses mérites. Alors que le nom de la fonction sacerdotale est isolé à six reprises, cette fois, on va nous dire tous les mérites de cette personne. Il est spécialement expert. Or, cette fois-ci, ce prêtre, sa fonction, c'est le Srausha Varza. Littéralement, celui qui fait l'écoute. Or, c'est lui, à ce moment-là, qui va prendre la parole. Il va prendre la parole, il va investir le chef, le Zaoutar, investique. Donc, il y a une sorte de mouvement qui nous conduit inéluctablement à la désignation du directeur du sacrifice, le Zaoutar, mais qui passe par l'investiture de toutes les fonctions sacrificielles, puis par celle du Srausha Varza, il va prendre la parole, c'est son rôle, il va prendre la parole, et il va investir, lui, le Zaoutar. C'est un préliminaire, donc avant que tout commence, avant que les actes du sacrifice commencent réellement, il faut procéder à cette investiture. Eh bien, je pense que nous avons ici, dans ce Yasna 56, grâce à la comparaison avec le Védique, nous le voyons, nous avons un autre texte d'investiture, une autre investiture. Probablement, il y en avait-il de divers types, nous ne savons pas. Nous avons une littérature de remploi, ne l'oublions pas, c'est une littérature de remploi. On a sélectionné des textes qui avaient leur valeur rituelle singulière pour en faire un nouveau rite plus long. Et en faisant cela, on les a bien entendu désarrimés du rite ancien, désarrimés. Or, nous avons ici probablement un autre type d'investiture, les restes d'un autre type d'investiture sacrificielle. Et nous avons quelque chose qui fait tout de même, que je trouve toujours personnellement émouvant. Nous avons véritablement le dernier lambeau, le dernier reste d'une littérature d'exhortation rituelle telle que l'Avesta ne comporte plus aucun morceau, qui va sombrer entièrement dans le cadre de la littérature de religion mazdéenne, mais que nous voyons se profiler comme un vieux genre indo-iranien. vieux genre indo-iranien, préhistorique, au-delà des textes du Rig Veda et de l'Avesta. Nous le voyons avec quatre malheureux documents qui sont projetés ici devant vous. Ça, c'est le reste miraculeux d'une littérature perdue et aussi d'une pratique perdue, la pratique de l'exhortation rituelle. Alors, tout de même, nous avons un lambeau, je crois, de l'exhortation avestique, à un autre endroit de l'Avesta. Le Yasna 27. Ah, le Yasna 27, rappelez-vous son importance, il est mixte, le Yasna 27. Il commence comme la fin des préliminaires en avestique récent, et puis à la 13e strophe, Yasna 27-13, commence la récitation avec la Unavairia de l'Avesta ancien. Eh bien, dans le Yasna 27, nous trouvons strophes 6 et 7. Une exhortation, vous retrouvez Sraucho, hein, vous retrouvez Astu, vous retrouvez les deux éléments, vous retrouvez Ida, les trois éléments sont repris. Je vous en donne uniquement le squelette, parce qu'il y a quelques difficultés grammaticales qui ne compromettent pas le sens du texte, vous savez, comporte pas le sens du texte, mais ils sont ennuyeux et je ne pourrais pas faire autrement que vous les commenter. Je n'ai d'ailleurs pas pu faire autrement que faire figurer un he-cha qui est un problème, mais qui semble être une reprise de Sraucho. Hein. Sraucho appartient à un autre syntagme dans ce cas-ci que celui-là, c'est-à-dire Sraucha. Alors, Vankush Sraucho, le bon Sraucha, il est dit bon. Vankush, le bon Sraucha au nominatif. Que celui-là, à présent, Ida, Yoritoa Astu, qu'il ait pris place rituelle, qu'il soit à sa place rituelle définitive, qu'il soit vraiment à sa place, qu'il ait pris sa place dans la disposition sacrificielle. Yat, c'est prendre place sacrificielle. Cela fonctionne, si vous voulez, comme un impératif passé. Il n'est pas possible de former un impératif parfait d'une manière autre que périphrastique. Donc on ne pourrait pas s'exprimer autrement que ceci. Bon, il faut qu'il ait pris place sacrificielle. Oui, et que va-t-il se passer? Eh bien, on va commencer à réciter l'Avesta ancien. On va commencer la récitation de l'Avesta ancien. Mais il n'y a pas seulement cela, n'est-ce pas? Je peux vous donner dans le texte du Yasna 27, je l'ai repris à cette occasion, lorsque j'ai fait allusion rapidement au Yasna 27, je vais vous le signaler, je vais vous le confier tout de même. L'an dernier, il faisait partie du corpus de textes que je voulais analyser avec vous l'an dernier. Et je ne vous en ai pas parlé parce qu'il me paraissait qu'il ne s'y passait rien, hein, qu'il ne s'y passait rien de particulier, que c'était simplement la fin de la deuxième préparation de Hauma et que c'était une introduction douce, hein, à la récitation de l'Avesta ancien. Mais le Yasna 56 m'oblige vraiment à le reprendre. Elle me le reprend pour vous signaler que nous avons effectivement ici un autre lambeau de l'exhortation à commencer le rite. Donc, Sraucho, qu'il ait pris place rituelle. Et alors, que va-t-il se passer dans la strophe 7, hein? Que va-t-il se passer dans la strophe 7 qui suit? Eh bien, dans la strophe 7, il y a malheureusement un terme que nous ne comprenons pas. Nous considérons, dit le prêtre qui récite, que les upankha, je ne sais pas ce que c'est, upankha, les upankha, probablement, je ne sais même pas comment je dois poser le mot, probablement est-ce un mot neutre que je dois poser sous cette forme-là, mais je n'ai pas d'explication. Et on va procéder aux upankha de la Unavairia correctement récité. Des pierres appressurées, correctement mises en mouvement et bruyantes. Hein, nous y voici. La musique des pierres. Donc, il y a attention, il y a audition, attention, à quoi? Eh bien, à toute la musique du rite, hein, la récitation des paroles sacrificielles et le bruit des pierres du pressoir. C'est pas? Alors, je vais vous proposer, je suis très tenté, hein, je vais vous dire, comment faut-il traduire Srausha Varza? Est-ce le prêtre de la discipline? Est-ce le prêtre qui force l'attention des fidèles? Non. C'est l'organisateur de la sonorité du rite. C'est le responsable de la sonorité du rite. Il doit bien sûr veiller à la correction des récitations. Il est là pour ça. Il peut punir pour cela, on le sait, dans les dispositions. Dangereux d'être prêtre dans l'époque avestique. Hein. Si quelque chose se passe mal, vous pouvez encourir quelque chose. Hein. Certainement des coups de fouet, certainement. Mais, bien, il y a donc, c'est l'organisateur des sonorités. Mais ça va aussi devant des choses beaucoup plus symboliques, beaucoup plus élémentaires, c'est-à-dire, bien entendu, introduire à chaque phase rituelle dans sa matière sonore. Je le verrai de cette façon-là, si vous le voulez. Alors, nous allons, bien sûr, je voudrais vous confier aussi qu'avant de la Vairia, nous sommes à la 7e strophe, la Hunavairia va commencer chez la strophe 13, introduite par la strophe 12. Dans l'intervalle, il reste 8 à 11, donc 4 strophes. Eh bien, c'est une citation d'un passage gathique. C'est la citation d'un passage gathique. Entre la Hunavairia et cette espèce d'organisation des sonorités, la citation gathique 33, 11 à 14. Je ferai remarquer d'ailleurs que nous nous trouvons dans un secteur intermédiaire par rapport à ce que nous disions pour le Yasna 55, lors des sons passés, vous savez. Je vous ai dit qu'on trouverait beaucoup de hasard, mais vous savez que selon le Yasna 55, 6, n'est-ce pas, du Yasna 33, 1, qui est la première strophe de l'avant-dernier chapitre de la première gatha, à la dernière strophe du dernier chapitre de la même gatha, 34-15, l'on transite de l'état d'existence premier, c'est-à-dire celui que nous avions avant d'avoir un corps, jusqu'à, finalement, l'existence rénovée, c'est-à-dire celle qui, après notre mort, nous rend un corps, mais un corps désormais immortel, pas toute la transition entre les diverses étapes de la vie des vivants est censée se produire entre le Yasna 33.1 et le Yasna 34.15. Alors, vous voyez, 33, 11 à 14, ce sont les dernières strophes de ce chapitre. Nous sommes dans le secteur intermédiaire. Or, que se passe-t-il? Bon, je ne vais pas vous faire l'analyse. Ce n'est d'ailleurs pas, probablement pas tellement ce qui importe au compilateur qui a sélectionné les textes pour son long sacrifice, mais le syntagme de base, le syntagme verbal de base de la 11e strophe, donc la première strophe citée, Yasna 33.11, s'adresse aux divinités. Srauta amoui. Écoutez-moi. C'est le syntagme de base de la première strophe. Et la dernière, 14, 33, 14, s'achève sur les mots Srauchem Kshatram Cha. Kshatra est très important, mais je le garde en réserve. Il est trop tôt, je ne peux pas le commenter. Mais les derniers mots de ce chapitre, Srausha et Kshatra. Vous voyez, ce que je voulais vous dire, nous rencontrerons beaucoup de hasards, c'est évidemment pas du tout un hasard, n'est-ce pas? Mais par la simple pratique de la citation, non commentée, on cite la strophe, il y a une spéculation secrète, enfin secrète pour nous, elle n'était pas secrète à l'époque, mais que nous devons exhumer, nous, ou dont nous ne voyons que l'ombre, n'est-ce pas? Mais il est évident qu'après avoir procédé à cette injonction, qu'il y ait à présent que Srausha ait pris place rituelle, n'est-ce pas? On cite un texte qui est évidemment une sorte de texte imprégné par le concept de l'audition. Les dieux doivent écouter, n'est-ce pas? Et puis cette strophe qui s'achève par Kshatram, par Srausham Kshatram Cha. C'est une, ça nous laisse aussi un peu la, l'idée de cette spéculation essentielle sur les gathas qui a produit finalement pas le, le rituel du yasna. Alors, on pourrait peut-être revenir au yasna 56. Sur le temps qui nous reste, je voudrais, je vais faire l'historique à propos du yasna 56, au fond de l'importance progressive que ce texte a pris dans la, dans les préoccupations des spécialistes. Bien, c'est surtout ce qui a intéressé dans ce texte au départ. Ce sont les propositions relatives. Yö nan ishto, dans la strophe 1. Yan no ishtar, dans la strophe 2. Yö ne araicha, etc., jusque ashankhak, dans la troisième strophe. Nous avions attiré l'attention, Éric Pirard et moi, dans les toutes premières pages, page 4 des textes de vieille avestique parus en 1988, sur le fait que la simple relative de la première strophe, Yö no ishto, paraissait bien un premier rémistiche de quatre syllabes d'un vers gathique. Il s'agissait donc d'une pièce, n'est-ce pas, d'un fragment d'une gatha perdue. Nous avions fait cette réflexion. Alors, maintenant, méthodologiquement, à quoi peut-on reconnaître dans un flot de mots, dans un flot discursif en avestique récent, un passage vieil avestique. C'est très difficile à dire. Mais les copistes de nos manuscrits ont tenu à donner une certaine apparence formelle à ce qu'ils considèrent comme rédigé en vieil avestique. Ce qu'ils considèrent, hein, ce n'est pas nécessairement la réalité. Et cette apparence est très simple. C'est de la voyelle finale longue. Toutes les voyelles finales sont longues, allongées. Ça, c'est le premier trait. Le second trait, les occlusives sonores intervocaliques ne se spirantisent pas, ne sont pas spirantisées, comme en récent. Elles restent occlusives, sont préservées. Oui. Alors, selon leur sensibilité particulière aux choses, les spécialistes accordent une importance considérable ou pas d'importance du tout à ces deux traits. Je suis parmi ceux qui n'y accordent aucune importance. Je crois que, tout simplement parce que cette pratique, on observe simplement, elle est, vous savez que la tradition manuscrite est très, très tardive, et puis on observe à l'intérieur même de l'Avesta ancien le plus incontestable, pardon, les gathas, que cette pratique parfois est en panne. Elle est en panne, et brutalement on tombe dans la graphie récente. C'est donc quelque chose qui tend à ne pas persister dans la tradition manuscrite. Quelqu'un comme Tremblay, par exemple, y accordera de l'importance, parce qu'il croit que là, il y a effectivement des traits phonétiques originaux. Mais en tout cas, ce désaccord a pour effet pratique que ce n'est pas un argument sûr. Hein, ce n'est pas un argument sûr. Dès lors, il n'y a que... Trois traits possibles. Et justement, nous avons de la chance, dans la première strophe, Yö nan ishto possède le plus incontestable et le plus certain de ces traits. C'est le pronom enclitique accusatif de la première personne du pluriel, nous. Le pronom enclitique, donc le pronom en deuxième position de phrase qui n'est pas accentué, il est en védique nas, je ne fais pas le sandi. Donc, voyez le bref, au datif, au génitif et à l'accusatif. En récent, oh, il est là, vous le trouverez dans la deuxième relative de la strophe 2, no, c'est un nas, hein, c'est un nas traité sous cette forme en avestique. Donc, il y a aussi à l'origine un abref. Pour les trois cas, datif, génitif, accusatif, c'est la même forme est polyvalente, hein, elle est polycasuelle pour le datif, le génitif et l'accusatif. Mais en vieil avestique, non. Cette forme-là, effectivement, mais sous la graphie nœud, c'est aussi un as, est restreinte au datif et au génitif, tandis que l'accusatif a nor. Or, nor, cela représente nas, avec allon, nas. Or, c'est un archaïsme. C'est un archaïsme parce qu'il renvoie à une forme que nous trouvons en latin et qui présente clairement la voyelle longue. C'est le latin nos. Nos, où le O est long. Donc, c'est un archaïsme du vieil avestique. Et c'est un archaïsme qui immanquablement nous permet de désigner, de désigner un passage comme vieil avestique ou avestique récent. Si on trouve nor dans un texte, le critère est sûr à 99%. Bon, là, c'est donc un cas idéal. C'est un cas idéal que nous avons ici. C'est ce qui nous avait frappé, Pirard et moi. Le deuxième trait est déjà beaucoup plus vacillant. C'est la présence de formes verbales aoristes. Pas toujours sûr. Il y a parfois des aoristes fossiles en avestique récent. Et alors, le troisième trait, lui, c'est un ensemble de... C'est un ensemble de traits qui sont parfois difficiles à évaluer. Ce sont des particularités lexicales, des mots qui n'existent plus, etc. Nous avons vu un exemple la fois dernière avec Tevichy ou Tayuti, etc. Donc, ce sont des choses-là où l'estimation se fait plus vague. Donc, ici, nous aurions dans « ye non ishto », quatre syllabes, donc un premier hémistiche d'une gata. C'est ce que nous avions conjecturé. Alors, avant de m'expliquer sur ces termes, ce que nous ne ferons peut-être pas aujourd'hui encore, j'en viens à l'histoire de la réflexion. Pirard, quelques années plus tard, dans les MSS, les Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 52 de l'année 1991, a voulu tenter d'éclaircir le problème. Il a voulu tenter d'éclaircir le problème des éventuels fragments de textes gathiques perdus. Et il a fait une analyse du Yasna 56. C'était une nouveauté, un texte qui avait jusqu'alors guère préoccupé les spécialistes. Et ce qu'il en a tiré, il a élaboré cette théorie que toutes les propositions relatives, donc celles de chaque strophe, Yeno, Ishto, etc., dépendait de Yasnaï comme incipit du texte. Donc, cela voudrait dire, je ne prends l'exemple de la première strophe, donc qu'il y ait attention au sacrifice d'Ahura Mazda, sacrifice qui commence par les mots Yeno, Ishto. Yeno, Ishto. Alors, vous pouvez répéter l'opération, sacrifice au bonzo, qui commence par les mots, etc., et puis, sacrifice d'Achille, troisième strophe, qui commence par les mots untels. Donc, l'hypothèse qu'il a faite était celle-là. Il y a dans son analyse trop de difficultés. Par exemple, la plus grosse difficulté, celle qui prête le flanc à la critique, et celle qui a amené Tremblay à reprendre le problème et à voir les choses autrement, c'est la deuxième strophe, qui présente évidemment des traits tellement récents qu'on ne peut vraiment en aucune manière considérer que les mots qui suivent Yasnaï, donc Ashaunan, Chafra, Vashibio, Yon, No, Ishtor, Urvoibio, soient des fragments d'un texte vieil avestique perdu. Alors, en 2004, mais l'article n'est paru qu'en 2007, Tremblay a proposé un schéma beaucoup plus compliqué. Il a vu dans ce texte non pas des incipits de textes perdus, mais deux réelles citations vieil avestiques. Ce ne sont pas du tout les mêmes que celles de Pirard. Par exemple, ce serait l'expression Yat paovim tat ustamum chit. Serait une citation vieil avestique. C'est possible et peut-être probable. La raison en est surtout que la graphie du yat pour le pronom relatif yat au neutre est une graphie typiquement vieille avestique. Mais là, en avestique récent, nous aurions simplement ceci. Mais nous entrons dans le problème des graphies. C'est pour cela que si la graphie était véritablement significative, l'affaire ne ferait pas de doute. Ce serait bien une citation vieille avestique. Et il voit une citation aussi, une citation, hein, pas un incipit, dans la strophe 3, donc entre Ya et Ashankach. Ce qui, effectivement, il n'y a aucun détail ici qui soit véritablement significatif de l'Avesta ancien, mais c'est une possibilité que nous devons, que nous pouvons retenir, une possibilité tout au moins. Et pour le reste, il en faisait un témoin du vieil avestique, un témoin de l'état de langue moyen, puisque c'est le fameux article où Tremblay a proposé de créer la catégorie du moyen avestique, c'est-à-dire d'un état de langue et d'un corpus textuel intermédiaire entre l'Avesta ancien et l'Avesta récent. Je pense que Tremblay a certainement raison. Je crois qu'il faut renoncer à la théorie des incipits. Il y a des citations vieilles avestiques, certainement ici, mais insérées dans un discours qui n'est pas nécessairement du moyen avestique, mais qui est exactement de l'avestique récent. Alors, je voudrais vous faire une remarque, peut-être encore, nous avons terminé là-dessus, avant de nous lancer dans le reste de l'interprétation. Vous voyez que le premier sacrifice au génitif, c'est celui d'Ahura Mazda. Hein, le sacrifice, donc il y est attention au sacrifice d'Ahura Mazda, qui est Sebishtahé et qui est Ashauno. Je vous parlais de la valeur éventuellement significative des lexèmes. Eh bien, ici, il y a un trait lexical, je pense, qui n'est pas du tout vieil avestique. C'est déclaré qu'Ahura Mazda est Ashavan. Vous allez vous récrier, surtout si vous avez fait un peu d'avestique. Il est évident que Ahura Mazda devrait être le dieu Ashavan par excellence. Eh bien, non. Pour des raisons que j'ignore, mais nous sommes bien forcés de le constater, le mot Ashavan, qui exprime la conformité avec l'harmonie du monde, avec Asha, n'est-ce pas, n'est jamais utilisé pour Ahura Mazda dans les textes vieilles avestiques. On a recours à une autre tournure pour dire la même chose, mais on juxtapose au nom de la divinité l'expression ablative prépositionnelle Ashat A. Ça veut dire la même chose, n'est-ce pas? Il est selon l'harmonie du monde. C'est la même chose. Mais il semble y avoir un halo conceptuel qui fait en sorte que pour un certain nombre de notions ou de divinités, on doit utiliser cette tournure, et pour d'autres, effectivement, Ashavan. Le sacrifice lui-même, par exemple, le sacrifice n'est jamais Ashavan. Il est Ashat-A. Ashat-A, comme Ahura Mazda. Donc là, c'est un trait. Vous voyez, c'est cela que j'entends par les traits lexicaux qui font de la particularité du vieil avestique ou de l'avestique récent. Ashauno, pour moi, ici, est vraiment un très caractéristique de l'Avesta récent. Par contre, Sevishtahé, c'est-à-dire celui qui dispose d'un type de puissance qui est une sorte d'opulence, le plus opulent, disons, Sevishtahé, c'est un mot qui est utilisé pour Ahura Mazda dans les gathas, deux fois. Alors, nous allons terminer par de nouveaux hasards, si vous voulez bien, hein, de nouveaux hasards, où est utilisé ce Sevishta dans les gathas pour caractériser Ahura Mazda, dire qu'il est opulent. Eh bien, nous trouvons cela dans le Yasna 28. Nous sommes dans les gathas, 28.5, premier chapitre de la première gatha. Sevishtai, au datif, Sevishtai, Mazdai. Il y a un mot intercalaire, il y a un mot entre les deux. Vous savez, l'ordre des mots est libre, hein, comme dans la poésie latine que vous connaissez. Sevishtai, Mazdai. Alors, devinez quel mot. Devinez. Sraushem. Sraushem. Bon, deuxième attestation, Yasna 33, je l'avais noté ici, je pense, oui, le Yasna 33, excusez-moi, je crois que c'est le 33.7, Et cela, 33.7. La première citation, 33.11, excusez-moi. 33.11. Yasna 33.11. Donc, la première strophe citée dans le Yasna 27. Or, quels sont les premiers mots de cette strophe qui semble hantée par l'audition ? Yo, se wishto, ahuro, nominatif singulier, laura, mazda, qui est se vishta. Voilà la deuxième et ultime attestation de Savishta dans les Gathas. Ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas, si dans un texte consacré à Srausha, on a donné à Ahura Mazda les qualifications qui surviennent dans des textes où, visiblement, Srausha est associé à la grande divinité. Ça aussi, c'est le trait de la spéculation, n'est-ce pas, qu'il y a derrière tout cet assemblage du yasna, de la compilation de notre yasna récent. Voilà, nous allons terminer ici. Alors, nous entamerons, l'examen des quelques traits informatifs que nous réservent encore ces trois pauvres strophes. Mais bon, il y a beaucoup de choses dans cette strophe. Merci beaucoup.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.